alors que la fusion Alstom-Siemens vient d'échouer, l'Europe a manqué une occasion de réagir à la concurrence chinoise et américaine. Hier, les ministres allemands et français de l'économie ont prévenu « Si l'Europe veut rester une puissance industrielle en 2030, le choix est simple, unir nos forces ou laisser notre base et notre capacité industrielle disparaître progressivement. » Dans l'actualité des idées aujourd'hui, nous dirigeons-nous vers une nouvelle guerre froide économique, voire sommes-nous déjà dedans? On en parle avec notre invité, le politologue Ali Laïdi, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'intelligence économique, auteur d'un essai qui vient de paraître chez Actes Sud, Le droit, nouvelle arme de guerre économique. Bonjour Ali Laïdi.
Bonjour.
Pour comprendre ce qui est en train de se jouer sur la scène mondiale, le cas d'Alstom est-il un bon point de départ, une bonne rampe de lancement?
Oui, c'est en tout cas le cas d'école qui a fait qu'il y a eu débat, du moins en France et peut-être un peu plus largement en Europe, sur la manière dont un allié, les États-Unis, utilisait le droit comme arme de guerre économique. Donc ça a été sans doute, avec, j'ajoute, le cas BNP, les deux informations qui nous ont fait réagir. Alstom, c'est le droit extraterritorial fondé sur la lutte contre la corruption, donc le droit américain qui date de 1977. Et BNP, c'est un autre pan de l'extraterritorialité du droit américain, c'est la lutte contre la violation des embargos, donc le refus de certaines entreprises d'appliquer les lois américaines lorsqu'elles décident qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec le Soudan, avec l'Iran et d'autres pays. BNP, c'est plus de 9 milliards de dollars d'amende versée directement au trésor américain, une partie au trésor de la ville de New York. Et Alstom, ça a été plus de 700 millions de dollars versés au trésor américain, avec en plus, ce qui caractérise le cas Alstom, c'est que cette entreprise, après, a été en partie rachetée par un géant américain qui s'appelle General Electric, qui visait ce rachat depuis des années, et qu'Alstom a été donc coupé d'une partie importante de ce qu'elle représentait, c'est-à-dire toute sa filière Power Energy.
Pourquoi une amende d'Alstom?
Alors Alstom, c'est une amende sur des vieux cas de corruption qui sont avérés, hein, pratiquement, mais pas sur le territoire américain, plutôt en Asie. Ça faisait en effet des années et des années que l'administration américaine tapait à la porte d'Alstom en lui disant « Attention, vous avez été repéré ici, vous avez été condamné ici pour corruption, etc. Il va falloir changer. » Alstom a refusé de changer sous l'injonction donc de l'administration américaine. Et à un moment donné, l'administration américaine a décidé de taper et de taper très très fort pour montrer qu'en effet, l'administration américaine était capable d'agir en dehors de ses frontières pour frapper les entreprises qui ne respectent pas la loi américaine.
Alors vous avez déjà donné à Lila Heidi les trois mots-clés, les trois têtes du chapitre du scénario qui est en train de s'écrire, de cette nouvelle guerre économique qui est en train de se jouer. On va rester un instant sur ce cas d'Alstom pour comprendre. Les trois mots, c'était extraterritorialité, rachat, corruption, on va y revenir. Alstom, c'est un enfant de la CGE, un joyau industriel français, concurrent de General Electric à l'époque, et de Siemens, avant son démantèlement à la fin des années 80 pour cause de privatisation. Alstom a ensuite elle-même été dépecée avec en 2014 la vente de sa branche énergie à l'américain General Electric. 2017, il va y avoir une partie de sa branche ferroviaire qui va être vendue aux Allemands cette fois. Pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps avant de réagir? Vous évoquiez ce débat qui a été ouvert autour d'Alstom, mais ça a mis beaucoup de temps, des années d'aveuglement. Je vous propose pour en discuter d'écouter d'abord les mots d'Arnaud Montebourg, qui était alors ministre du redressement productif en 2014, voir si c'est là que s'est jouée, en gros, la prise de conscience.
Aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Et depuis le mois de février, j'interroge Monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement?
Alors là, est-ce qu'on a le début de la prise de conscience ou une expression manifeste de l'impuissance des responsables politiques face à cette guerre économique qui est en train de se jouer ?
Expression manifeste de l'impuissance de l'État et des gouvernements à faire face à cette question. Arnaud Montebourg est extrêmement énervé parce qu'il est vexé, parce que, à ses yeux, Patrick Cron, qui dirige à l'époque Alstom, lui a menti à maintes reprises en disant qu'il était hors de question de vendre la partie énergie d'Alstom. Or, il se trouve que ça fait des mois et des mois que Patrick Cron est en train de négocier avec le géant américain General Electric la vente de la partie énergie. Et toute la question est que se pose à ce moment-là Arnaud Montebourg, et qui va être ensuite posé par un certain nombre de députés, puisqu'il va y avoir quand même une commission d'enquête là-dessus. Y a-t-il un lien entre la pression exercée par l'administration judiciaire américaine sur Alstom, et en particulier sur Patrick Cron, et la vente de Alstom à General Electric? Autrement dit, est-ce que les Américains ont menacé Patrick Cron de l'envoyer en prison, comme ils l'ont fait factuellement avec l'un de ses grands dirigeants, Frédéric Pierucci, qui est passé 2 fois 12 mois ou 14 mois en prison. L'ont-ils menacé pour pousser sa main à signer la vente de la partie énergie d'Alstom à l'américain General Electric? C'est pas, comme le dit Arnaud de Montebourg, c'est pas une petite entreprise, Alstom. Non seulement c'est une entreprise importante, mondialement connue, qui a des marchés dans le monde entier, mais c'est surtout une entreprise stratégique, puisque la partie énergie d'Alstom s'occupe en partie de nos centrales nucléaires. Donc il y a un lien direct avec, un, la souveraineté économique de la France, et deux, la souveraineté politique et militaire de la France. Donc c'est le cas qui montre qu'en gros, les politiques sont totalement nus, et ils tombent des nus de constater qu'un grand patron français puisse vendre une entreprise à un Américain, quand bien même les États-Unis sont considérés comme un allié.
Vous avez posé la question, mais vous n'y avez pas répondu. Est-ce que la Commission, les députés, eux, ont trouvé la réponse à cette question, c'est-à-dire celle du lien entre d'éventuelles pressions et le rachat de cette branche énergie ?
À de multiples reprises, Patrick Cron, entendu par des députés, soit par des missions d'enquête, soit par des commissions d'enquête, a répété qu'il n'y avait aucune pression de l'administration de la justice américaine contre lui pour l'emprisonner ou pas. La conclusion de la commission d'enquête qui a été portée par le député Olivier Marleix, c'est de douter de la parole de Patrick Cron.
Olivier Marleix, il dit quelque chose d'assez fort, là encore, il est député UMP à l'époque, il dit « l'État a échoué à préserver les intérêts nationaux ». Et il met aussi en cause les procédures extraterritoriales de la justice américaine. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est ces procédures extraterritoriales ?
En gros, les États-Unis ont mis en place, à partir des années 70, deux types de lois qui leur permettent d'agir à l'étranger. Premier type de loi, la lutte contre la corruption, c'est ce qu'on appelle la loi FCPA, décidée en 1977 par le Congrès américain sur la base, et ça c'est assez extraordinaire, du fait que les entreprises américaines étaient corrompues suite aux révélations du scandale de Watergate, où on s'est en effet aperçu qu'un certain nombre d'entreprises américaines corrompaient des agents publics étrangers. Donc ils ont décidé d'une loi, sauf qu'ils se sont vite aperçus que cette loi-là, si elle ne considérait que les entreprises américaines, alors il pouvait y avoir distorsion de concurrence avec les autres entreprises étrangères qui pouvaient, elles, continuer à corrompre et donc voler éventuellement des marchés aux États-Unis.
Donc au nom de la moralisation des marchés, ils ont estimé qu'il serait bon qu'elle s'applique un peu à tout le monde.
Voilà. Alors ils ont eu plusieurs tentatives, notamment devant l'ONU. Ça n'a pas fonctionné parce que dès cette époque-là, donc on est en 1977, les pays de l'OCDE, les pays riches, voient le problème arriver de l'extraterritorialité. Ils voient l'ingérence possible, potentielle des États-Unis dans leurs affaires économiques. Donc ça ne passe pas à l'ONU. Ils essayent via la Chambre de commerce internationale, mais là encore, il y a un petit code éthique qui est décidé, mais franchement, ça passe pas. Leur objectif, et ils vont l'atteindre, c'est l'OCDE. 20 ans après la loi FCPA de 1977, en 1997, l'OCDE vote une convention de lutte contre la corruption. Et à ce moment-là, et vous reprenez les deux textes, c'est quasiment un copier-coller de la loi américaine que a décidé l'OCDE. Donc, vous avez un axe d'extraterritorialité sur la lutte contre la corruption, et vous avez un deuxième axe d'extraterritorialité, principaux, puisqu'il y en a d'autres que je décris dans mon bouquin, c'est les embargos contre un certain nombre de pays que les États-Unis estiment voyous, ces fameux « Rockstead ». Donc, les États-Unis disent « Dorénavant, nous allons voter une loi, Helms-Burton en 1996, contre Cuba, et dorénavant, vous n'aurez plus le droit, que vous soyez entreprise américaine ou entreprise étrangère, vous n'aurez plus le droit de faire du commerce avec Cuba. » 96, même année, les lois Helms-Burton, les lois D'Amato-Kennedy, pareil, même schéma, vous n'aurez plus le droit, que vous soyez entreprise américaine ou étrangère, de commercer avec l'Iran et la Libye. Si vous le faites, alors vous êtes susceptible d'être attaqué devant nos tribunaux. Et voilà comment on exporte...
Mais pourquoi je suis un État souverain? J'ai le droit d'exporter ou de négocier avec qui je veux?
Ben oui, et ben c'est ça l'extraordinaire potentiel de puissance juridique, la Lex Americana. C'est ça, elle aboutit au fait, vous imaginez qu'en France, l'Assemblée nationale vote une loi qui s'applique aux entreprises indonésiennes, anglaises, américaines, chinoises, c'est impossible. Eux, ils ont décidé dès 77 que leur loi s'appliquer au monde. Et donc, si vous contrariez leur loi, alors vous passez devant les tribunaux américains. Et la solution est très simple. Vous contrariez leur loi, c'est soit le marché américain, soit vous êtes exclu totalement du marché américain. Donc, vous imaginez bien que pour une entreprise...
Alors, c'est pas pareil. On passe devant les tribunaux américains ou on est simplement exclu du marché américain, ce qui veut dire une forme de condamnation à mort économique.
C'est là qui est assez aussi extraordinaire, c'est qu'on passe pas devant les tribunaux américains. C'est pas du tout une affaire de juge. Le juge intervient à la fin seulement, à la toute fin de la négociation entre l'autorité de poursuite américaine, qui peut être le DOJ, donc la justice, mais qui peut être aussi la SEC, le gendarme américain. Il y a un deal. En gros, l'autorité de poursuite américaine dit, vous, telle entreprise, nous estimons que soit vous avez corrompu, soit vous avez brisé un embargo. Vous allez nous prouver par votre enquête, avec vos avocats que vous allez payer, vous allez nous prouver que vous avez bien fauté. Et si vous prouvez bien que vous avez fauté, alors l'amende sera moins importante que si vous continuez à cacher des informations. Donc c'est un lien uniquement entre un procureur et l'entreprise. Et le lien est très simple, c'est soit vous collaborez, soit vous n'avez plus le droit au marché américain, et donc c'est votre mort. Le juge n'intervient qu'à la toute fin, il tamponne l'accord entre l'autorité de poursuite et l'entreprise.
Alors, cas pratique, vous évoquiez le précédent cubain. Total s'est essayé à faire des affaires avec Cuba après cette première loi Helms-Burton qui avait été passée. Et vous racontez que Washington s'est vraiment mise à faire la chasse à ce moment-là à toutes les entreprises étrangères qui tentaient de s'aventurer sur l'île.
Trafiquants, il les appelait dans la loi.
Parce que, effectivement, Washington n'avait aucun intérêt à laisser les autres aller là où, d'elles-mêmes, où ils avaient décidé de se retirer, en fait. Hein. Alors, comment ça s'est passé pour Total?
Bon, c'est la politique de la terre brûlée. À partir du moment où ils disent nos entreprises n'ont pas le droit de faire du commerce avec Cuba, alors vos entreprises non plus, parce que sinon il y a distorsion de concurrence. Mmh. Donc, terre brûlée, et jusqu'au jour où nous acceptons de nouveau que nos entreprises puissent aller faire des affaires, à ce moment-là, il y aura concurrence pure et parfaite. Vous serez tous, toutes les entreprises du monde entier, sur le même niveau. Donc, comment ça se passe? Ben, c'est très simple. C'est l'article 3, le titre 3 de Helms-Burton, qui dit que toute entreprise qui commerce avec Cuba sur la base d'actifs qui appartenaient à des Américains avant la révolution castrite, cette entreprise est considérée comme un trafiquant. Les hommes et les femmes de cette entreprise ne pourront plus voyager aux États-Unis, ils n'auront plus de visa, et puis leur entreprise pourra être poursuivie par les tribunaux américains. Donc très rapidement, évidemment, les grandes entreprises qui étaient en commerce avec Cuba se sont retirées du marché, très clairement, tout comme pour l'Iran et la Libye.
Alors, autre exemple, à l'été dernier, en juin, on apprenait le retrait de PSA d'Iran. Extrait.
Après Total, c'est au tour de PSA de se plier aux injonctions américaines. Le constructeur automobile français a annoncé ce lundi que deux de ses marques, Peugeot et Citroën, préparaient leur retrait d'Iran.
Suite au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien annoncé le 8 mai 2018, le groupe a commencé le processus de suspension des activités de ses joint ventures afin de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août 2018.
Joint venture ou entreprise commune. Peugeot et Citroën s'étaient implantés en 2016 en s'alliant à des entreprises iraniennes sur place. Une affaire qui a porté ses fruits, car depuis l'Iran est devenu le premier marché étranger pour PSA devant la Chine, avec près de 450 000 voitures vendues l'an dernier. PSA avait investi 700 millions d'euros entre ses deux filiales pour se développer sur le sol iranien. Le groupe tente de minimiser l'impact de ce probable retrait. Ses activités en Iran ne représentent que moins d'1% de son chiffre d'affaires total. Le président du MEDEF estime pourtant qu'il s'agit d'un coup dur pour le groupe PSA.
C'est une très mauvaise nouvelle pour PSA, mais ils n'ont pas le choix car vous avez face à cette décision américaine des sanctions. Si vous n'appliquez pas ce que demandent les Américains, vous pouvez être sanctionné lourdement par des pénalités.
Pour poursuivre ses activités en Iran et échapper à des sanctions américaines, il faudrait que PSA obtienne une dérogation des États-Unis. Une demande qui a peu de chances d'aboutir.
Ouais, c'est comme à l'école, il faut aller demander la permission de pouvoir faire quelque chose et obtenir dérogation. Bon, mais derrière ça, la France s'est donc pliée aux sanctions à l'embargo décrété par les États-Unis. Est-ce que tout le monde, comme nous, accepte ces règles édictées par celui que vous appelez le shérif américain? Est-ce que les Russes et les Chinois, par exemple, ils acceptent aussi de se plier à ces injonctions?
Alors, les Russes un peu moins, parce qu'ils sont d'abord moins exposés, leurs entreprises sont moins exposées, d'une part. D'autre part, parce qu'ils font aussi l'objet de sanctions, mais plutôt sur des lois politiques, notamment à cause de l'affaire de l'Ukraine et de la Crimée, sanctions appliquées à la fois par Washington et également par Bruxelles, mais moins exposées leurs entreprises en Iran. La Chine, moins jusqu'à ces derniers temps. En ce moment, on vit un véritable bras de fer entre les États-Unis et la Chine sur la base des lois d'Amato Kennedy. Donc, on reproche à un certain nombre d'entreprises chinoises, par exemple ZTE, télécommunications, mais aussi ce qui va faire l'actualité encore de nouveau dans les semaines qui viennent, Huawei. On lui reproche d'avoir fait des affaires avec l'Iran contre donc la loi d'extraterritoriale américaine. J'avoue que je pensais que les Chinois auraient réagi beaucoup plus durement à ces tentatives américaines d'imposer leurs lois. On a vu qu'à travers ZTE, il y a eu un compromis trouvé, parce que les Américains avaient interdit à leurs entreprises de vendre des produits stratégiques à cette société chinoise qui était au bord de la banqueroute. Finalement, Trump a trouvé le moyen de rétablir la connexion avec cette entreprise chinoise. L'autre entreprise, c'est Huawei. On sait que la loi américaine a fait que les Canadiens ont arrêté le numéro 2 de cette entreprise, une femme qui est la fille du fondateur de l'entreprise au Canada. Et on attend pour le 6 mars la décision des juges canadiens, qui a été repoussée parce qu'elle devait tomber le 6 février, pour savoir s'ils extradent ou pas ce cadre important de la société chinoise Huawei aux États-Unis. Et vous avez vu les problématiques politiques que cela engage entre le Canada et la Chine ayant arrêté immédiatement un certain nombre de Canadiens.
Vous avez évoqué l'extraterritorialité de la justice américaine. J'essaie de comprendre comment le droit a vraiment basculé dans le champ économique. Comment le droit est devenu cette arme privilégiée de cette nouvelle guerre au service non pas d'une justice mais des intérêts économiques des grandes puissances. Vous dites notamment dans cet essai que l'Europe est tétanisée face à cela, que la France est paralysée. Mais on entend qu'on a quand même une législation américaine qui est donc censée être américaine, et on a du mal à comprendre pourquoi le reste du monde est obligé de s'y plier ou se sentirait concerné, et pourquoi surtout le reste du monde, et les Européens notamment, ne développent pas un contre-arsenal juridique à opposer aux États-Unis.
C'est toute la question qu'on pose, c'est la question de la réciprocité. Pourquoi la France, pourquoi Bruxelles ne répond pas directement avec le même type d'armes, puisqu'il s'agit vraiment d'une arme. Alors, les Européens ont pas compris. Alors, le grand drame des Européens, c'est qu'il n'y a plus de pensée stratégique dans l'affrontement économique. C'est qu'ils se sont construits, et c'est bien, sur l'idée de paix, mais en rejetant toute problématique d'affrontement, que ce soit un affrontement politique ou affrontement économique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les cadres intellectuels en Europe, je dis bien en Europe, France compris, pour penser les affrontements économiques. Résultat, ils n'ont pas vu les signes apparaître. Et le premier signe, c'est 1982, lorsque Reagan veut interdire aux filiales des entreprises américaines de participer à la construction d'un gazoduc entre l'Union soviétique et l'Europe. Margaret Thatcher tape des poings sur la table et dit « Non, il est hors de question que vous nous imposiez votre droit à l'étranger ». Ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, c'est 96, les lois d'extraterritorialité sur les embargos. Et là, les Européens ont une réflexion et agissent en décidant d'un règlement européen qui interdit aux entreprises européennes de se soumettre à la loi américaine. Sauf qu'elle n'a jamais, jamais, jamais été appliquée. Et que les entreprises européennes ont très bien compris que le droit du plus fort, c'était le droit américain et c'était surtout pas le droit européen. Donc, la pensée stratégique européenne est totalement absente et les Européens sont totalement démunis par rapport à cette question.
Invité de la grande table des idées aujourd'hui, le politologue Ali Laïdi, à l'occasion de la parution de son essai « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » ou « Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes », c'est chez Actes Sud.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Il est bientôt 13h20 sur France Culture. Une stratégie en deux temps, Ali Laïdi, vous l'avez évoqué, attaquer les finances des entreprises pour les affaiblir, puis lancer des procédures de rachat par des entreprises américaines quand elles sont vulnérables, les entreprises européennes. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la BNP, quand des amendes exorbitantes, celles que vous avez évoquées en ouverture de l'émission, ont été réclamées à la Banque française. 9 milliards de dollars payés au Trésor américain. C'est ce qui s'est passé.
Oui. Alors, il faut peut-être aussi élargir le cadre de la pensée. Je vous ai dit, les lois contre la corruption datent de 77. Les lois sur les sanctions, 96. Mais ce qui va se passer, c'est que les Américains vont pas tout de suite utiliser cette extraterritorialité. Il va se passer que le 11 septembre va arriver en 2001. Et là, les Américains vont comprendre que la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre le financement du terrorisme. Et cette lutte contre le financement du terrorisme passe par le fait d'empêcher les entreprises de corrompre des intermédiaires et donc de créer de l'argent sale qui pourrait potentiellement financer les actes de terrorisme. Et à partir de 2001, les Américains comprennent que la lutte contre le terrorisme passe par une guerre financière et une guerre économique très dure contre des entreprises, des États qui pourraient potentiellement nourrir les réseaux terroristes. D'où, en effet, ce réveil à partir des années 2000 qui va permettre aux États-Unis de frapper un certain nombre d'entreprises, alors Statoil, le norvégien, puis après Technip, Alstom, etc., Siemens aussi, etc. Donc il y a une conjonction qui fait que cette arme du droit qu'ils possédaient va être mise au service de leur sécurité nationale qui passe par la lutte contre le terrorisme.
Enfin, deuxième réveil, parce que cette guerre économique, vous le racontez, a pris le relais de la guerre froide, la vraie, la première, et c'est réellement au début des années 90, après la chute du mur et celle de l'Union soviétique, que cette nouvelle stratégie va être progressivement mise en place, que les États-Unis vont imposer leur loi économique sous couvert aussi de préserver leur sécurité. Si je reviens au cas de BNP, ce qui lui était reproché, c'était d'avoir commercé avec l'Iran, avec Cuba et le Soudan, et en dollars, c'est ce que vous nous racontez. Il y a eu quand même des tentatives de réaction. Vous parliez tout à l'heure du lien entre politique, juridique, économique. On imagine que François Hollande a peut-être à un moment ou à un autre passé un coup de fil à Barack Obama. Voilà quelle a été la réponse du président américain.
En ce qui concerne l'amende sur la BNP Paribas, la tradition américaine et la suivante, le président n'a pas à s'ingérer dans les affaires de justice. Je n'appelle pas le procureur général pour lui dire de quelle façon trancher. Je n'influe pas pour qu'il y ait un règlement à l'amiable. Ces décisions sont prises par un département de la justice tout à fait indépendant. C'est une opinion que j'ai communiquée au président Hollande. Peut-être que la tradition américaine diffère des traditions des autres pays. Mais néanmoins, notre transition est conçue de sorte que l'état de droit ne soit pas menacé par les déséquilibres politiques. Ce sera donc au procureur américain de trancher en discussion avec les représentants de la banque. J'en entendrai parler dans les journaux comme tout le monde.
Ben voilà, pas vu, pas pris. Qu'est-ce que vous retenez de ces mots de Barack Obama ?
Alors moi, je veux bien croire hein, Barack Obama lorsqu'il dit qu'il y a une tradition américaine de séparation des pouvoirs entre
qui est la même chez nous d'ailleurs.
Voilà. Bah, il a pas l'air de dire ça lui. Il dit que visiblement, il y a des traditions différentes dans les pays étrangers. Je veux bien le croire, mais alors dans ces cas-là, il faut admettre que cette tradition est brisée aujourd'hui par le président Donald Trump. Je vous ai parlé de l'affaire ZTE, comment elle a été gérée d'abord par l'administration de la justice américaine qui a poursuivi ZTE, et comment est intervenu directement, en le disant, peut-être naïvement, mais il l'a dit, le président Trump, qu'il était intervenu directement dans ce dossier pour pouvoir permettre à l'entreprise ZTE de ne pas être condamné suffisamment fortement et de pouvoir continuer à faire du commerce. Et puis on va le voir très rapidement aussi, comment il s'implique dans la question du dossier Huawei, l'autre entreprise chinoise qui a maille à partir avec la justice américaine. On sent bien que ces dossiers ZTE Huawei sont des dossiers politiquement manipulés par l'administration américaine pour essayer d'en tirer quelque chose dans les négociations qu'on court aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine sur le fait de résorber l'immense déficit commercial qu'ont les États-Unis par rapport à la Chine et surtout d'empêcher la Chine de passer devant les États-Unis en matière de technologie et de science. Donc oui, je veux bien croire le président Barack Obama, mais pas aujourd'hui le président Trump sur le fait qu'il y a une séparation rigoureuse entre l'exécutif et la Maison-Blanche.
Est-ce que ça doit quand même titiller un peu les dirigeants du monde entier aujourd'hui de mettre aussi Donald Trump face à ces contradictions ? Est-ce qu'il peut d'un côté prôner un retour au protectionnisme, à la souveraineté économique et de l'autre encourager sous une forme ou sous une autre, même avec les meilleurs outils, dont le droit, cette ingérence dans les affaires des autres ?
Ben, il encourage cette ingérence parce que il le fait au nom de ce qu'il dit depuis 2 ans maintenant, la sécurité nationale. Et donc, la sécurité nationale lui permet de tout faire. La sécurité nationale va peut-être lui permettre d'augmenter les tarifs de douane des véhicules européens qui arrivent aux États-Unis. Jusqu'à 25%, c'est une menace. Tout est relié à la sécurité nationale parce qu'il y a une vraie réflexion, il y a un vrai cadre de pensée aux États-Unis sur la manière de protéger la sécurité nationale. Donc il peut le faire aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en effet, il ne trouve pas, et tant mieux pour lui à la rigueur, mais tant pis pour nous, il ne trouve pas en face de lui des interlocuteurs capables de lui dire non, stop. Vous ne pouvez pas faire ça, et si vous le faites, alors nous répondrons avec une certaine réciprocité. La réciprocité, ce n'est pas un terme qui a été mis en avant ces dernières années par l'Union européenne.
Espionnage, question aussi de la confidentialité des données, c'est ce que vous révélez, au-delà aussi de ces questions de corruption, le champ est vaste à explorer. Airbus est aujourd'hui après Alstom, ou en même temps qu'Alstom, concerné par particulièrement ciblé dans cette guerre économique.
Alors donc Airbus, le Monde a annoncé le 18 décembre dernier que Airbus faisait l'objet d'une enquête de l'administration de la justice américaine. Officiellement, on n'a pas, parce que quand on est sous enquête de l'administration de la justice américaine, il doit y avoir toute une procédure. C'est-à-dire que le président d'Airbus, le conseil d'administration d'Airbus, doit déclarer officiellement au marché qu'ils sont sous enquête. Bon, on verra. En effet, c'est la grande menace. Airbus est sous enquête de l'administration française, le parquet national financier, là aussi pour des soupçons de corruption, sous enquête du serious fraud anglais, hein, là encore pour le fait de ne pas avoir déclaré l'ensemble des intermédiaires. Donc vous imaginez que s'il y a une troisième enquête de la part des Américains, soit ils s'entendent, France, États-Unis, Angleterre, pour trouver un montant d'amende contre Airbus, soit ils ne s'entendent pas, et dans ces cas-là, oui, il y a un vrai danger pour la pérennité d'Airbus.
Vous dites que nous vivons aujourd'hui dans un monde, où vous l'écrivez, dans un monde rongé par les métastases de l'idéologie compétitiste. Alors soit on se plie à ce constat et on baisse les bras, ou alors on se dit que peut-être une réaction est possible. Est-ce que c'est le scénario qui est en train de s'écrire dans la réaction que je citais en ouverture de l'émission des deux ministres de l'économie, français et allemand? Est-ce que vous voyez un début de rebond après la prise de conscience, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Alors, faut l'espérer. Est-ce qu'il y a un début de rebond? On verra concrètement. Par exemple, ils ont mis en place l'INSTEC, qui est un outil pour contourner les sanctions américaines sur l'Iran. Sauf que ça concerne essentiellement des entreprises, des PME, des petites entreprises, et sur les marchés des médicaments et les marchés agricoles. Donc, on verra quelle est la réaction forte ou pas de l'Europe. On sent qu'il y a un axe Paris-Berlin, bien que Berlin soit plus fragile, notamment sur les exportations de voitures allemandes aux États-Unis. Mais on sent pas que de la part des 28 et peut-être demain des 27 une réaction commune, avec des pays de l'Est qui ne sont pas d'accord pour affronter les États-Unis, des pays du nord de l'Europe qui ont une tradition extrêmement libérale et qui ne veulent pas entendre d'une moindre discussion sur le protectionnisme. Donc oui, il y a peut-être de la part de Paris-Berlin une envie de rediscuter, de remettre ces dossiers sur la table, mais est-ce qu'elles seront suivies, ces envies, par d'autres pays? C'est la question. La problématique de la guerre économique, c'est, comme vous dites, une problématique d'adaptation, ou alors une problématique de « on se fait tous la guerre et dans ces cas-là, on va tous dans le mur ».
Et quelle serait la véritable déclaration de guerre à laquelle la France ne pourrait que répondre?
S'attaquer à Airbus, s'attaquer peut-être demain à Vivendi, s'attaquer demain peut-être à Engie, s'attaquer demain peut-être à Veolia, parce que ces entreprises sont peut-être aussi potentiellement susceptibles de se retrouver sur la liste du département de la justice américaine.
La liste est encore longue alors, des cibles de choix. Merci beaucoup à vous, Ali Laïdi. Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. Votre nouvel essai vient de paraître chez Actes Sud. Et puis j'attire aussi l'attention de ceux qui nous écoutent vers l'ouvrage co-signé par Frédéric Pierucci et Mathieu Aron. Vous avez cité son nom en ouverture de l'émission. On n'est pas revenu sur ce cas de cet ancien patron d'une des filiales d'Alstom qui a raconté le piège dans lequel il est tombé. Le piège américain, c'est le titre de l'ouvrage. L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne, et c'est Jean-Claude Lattès. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Dame, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse, très très précieuse, d'Antoine Cesarelli et de Mathilde Tonfourcade. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig.